Bonsoir à tous, c'est Kabadou avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique où il est 13h05 ici à Washington et 18h05 en temps universel. Alors aujourd'hui notre sujet de discussion est la corruption. Nous avons de nombreux exemples au Cameroun. Le secteur des transports est miné par la corruption. C'est ce que révèlent les résultats de l'indice de perception de la corruption publié par la CONAC, la Commission Nationale Anticorruption. Ainsi avec 30 000 francs CFA, vous pouvez obtenir un permis de conduire de façon frauduleuse. Le secteur agricole n'est pas non plus épargné. 18 milliards de francs CFA ont été détournés dans le cadre d'un programme riz, maïs, manioc au Cameroun, selon l'ONG Greenpeace. Et pour lutter contre ce fléau, chaque pays apporte ses solutions. L'Angola, par exemple, prône une impunité zéro. En Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a initié une campagne nationale de sensibilisation. L'objectif est de faire connaître les dispositifs juridiques et institutionnelle pour prévenir et lutter contre la production et les infractions assimilées. Alors comment, selon vous, lutter efficacement contre la corruption? Estimez-vous que les campagnes anticorruption soient efficaces? Que faire en cas de récupération de fonds détournés? C'est notre sujet du jour et vous pouvez participer en appelant 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. C'est ce qu'a fait notre premier auditeur. Il s'agit de Tidiane Botekeba qui est au Cameroun. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA et surtout bonne année à vous.
Merci pareillement. Alors vous êtes au Cameroun qui a été pointé du doigt par un reportage récemment diffusé sur notre antenne en matière de corruption. Est-ce que vous avez envie de partager avec nous votre expérience au Cameroun?
Ah, vous savez, malgré que, en tout cas, cette commission est là, la CONAC, mais en tout cas, la corruption, il faut clairement dire les choses telles qu'elles sont. La corruption est déjà là, hein, visible à l'œil nu. Parce que, vous savez, le premier corrupteur, c'est quand même nous, les citoyens lambda. Donc, nous sommes le premier, en tout cas, à corrompre l'État. Donc après l'État, je veux dire qu'il y a quand même des corrupteurs là-bas.
Alors quand vous dites que vous êtes les premiers à corrompre l'État, que voulez-vous dire exactement?
Oui, je voulais dire qu'un citoyen lambda peut quand même commettre une infraction ici. Le citoyen, avant de commettre l'infraction, il sait quand même qu'il y a des textes de loi qui interdisent la chose. Mais si l'État intervient, donc c'est là qu'on commence en tout cas à situer l'État, on dit que non, les sons, on doit quand même arranger à l'amiable. Donc partout là où, en tout cas, on dit que voilà, on va arranger à l'amiable, donc l'agent de l'État savent que voilà, qu'il y aura quand même quelque chose. Donc ça vient de là. Donc c'est pourquoi je dis que le premier corrupteur, c'est le citoyen lambda. Donc après l'État aussi est là, donc eux aussi c'est la même chose, hein. Il faut dire que c'est égalité parfaite, donc chacun en tout cas met à son niveau.
Merci d'avoir partagé avec nous votre point de vue. On va aller à présent à Bamako avec notre prochaine auditrice. Il s'agit de Mariam Koulibaly. Bonsoir.
Oui, bonsoir Pierre.
Alors vous avez pu entendre un précédent auditeur qui explique que la faute est de l'État, mais également de chaque citoyen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Oui, je suis entièrement d'accord. La faute est des deux côtés.
Alors comment faire pour éviter la corruption?
Pour éviter la corruption, moi je pense qu'il faut installer des ordinateurs pour enregistrer les fautes et puis les sanctions doivent être dans l'ordinateur et que ça doit être payé directement et signalé partout.
Alors par exemple, sur une infraction sur la route, il y aurait directement une inscription faite par l'agent assermenté de façon à ce que qu'il y ait des traces, c'est bien cela?
Oui, c'est bien cela. Par exemple, lors des élections, il y a 5-6 ans, il y a un président, un candidat qui avait proposé aux gens de voter pour lui, qui va mettre des machines partout où les policiers sont là, les douaniers et les impôts. Donc chaque infraction, c'est payé directement et c'est enregistré. Mais les gens ont refusé de voter pour lui parce que la population même, elle fait partie des premières personnes qui propose la corruption.
Alors, votre proposition est notée. En tout cas, merci de nous l'avoir proposée. Est-ce que le prochain auditeur est du même avis que vous? Il faut avoir plus d'infractions, en tout cas de sanctions, pour permettre aux personnes d'être plus responsables et d'éviter la corruption. Qu'en pensez-vous, Abou de Poutine? Bonsoir.
Oui, bonsoir, madame.
Vous êtes où exactement?
Oui, je suis en Guinée-Conakry.
Alors, pourriez-vous partager avec nous votre expérience guinéenne?
Oui, bon, pour l'expérience guinéenne, je tiens d'abord à remercier d'abord les premiers régimes qui ont poussé le pays, la Guinée, à l'indépendance. Parce que nous, la question de corruption aujourd'hui se parle partout, mais en réalité, nous ne sommes pas prêts.
Alors, nous ne nous entendons plus. Je ne sais pas s'il est possible de vous récupérer. Sinon, on va essayer de vous avoir juste après. En attendant, on va repartir au Mali, dans un petit village devenu célèbre, celui de Sonny Kenny, avec notre auditeur, Djara Kanyoumé. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Estia. Bonsoir à toute la rédaction de VOA Afrique.
Alors, vous, quel est votre avis concernant la corruption? Est-ce qu'il faut avoir des campagnes de sensibilisation? Est-ce qu'il faut avoir des sanctions plus fortes? Quelle est votre solution?
Ok, merci d'avoir de vous donner la parole. Et à mon avis, je pense que vraiment, depuis longtemps, on est en train de parler à faire de lutter contre la corruption. Mais à mon avis, je pense que vraiment, pour lutter contre ce fléau, il faut que l'État même prenne leur disposition, sinon... par exemple, j'ai donné un proverbe, quand un lano aussi est en train de manger du miel, je pense que si un homme n'est pas enlevé dedans, il va mourir dedans. Donc, je pense que le défaut, ça vient de l'État même. Parce qu'il faut imaginer, surtout dans mon pays comme au Mali, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à la corruption. Je pense que vraiment, sans ça, le gouvernement n'était pas au marché. Donc, il faut que non, l'État même prend à leur disposition. Après ça, la population prend cette mesure vraiment en compte. Sinon, je pense que vraiment cette flou n'était pas finie. Parce qu'il y a l'État même qui nourrit par rapport à la corruption, surtout quand il prend la circulation routière. Donc, vraiment, c'est trop désordre, à mon avis. Donc, si au moins c'est la population aussi. Et prendre leur disposition pour interdire certains fléaux. Je pense que vraiment la corruption va finir. Sinon, en Afrique et surtout partout, je pense que vraiment ces fléaux ne sont pas finis. Par exemple, quand j'ai imaginé quelque chose, même tout dernièrement, je suis allé dire le diplôme de mon petit frère, donc j'ai dit de déposer 500 francs d'abord. Donc c'est à chaque année, quand les élèves font déficit, ils vont récupérer leur diplôme.
Oui.
Ils n'ont pas déposé 500 francs. Tu ne peux pas trouver ton diplôme, à mon avis. Donc, c'est vraiment déplorable, à mon avis. Quand tu fatigues de chercher ton emploi, et puis tu fatigues de chercher ton diplôme, et puis récupérer le diplôme d'abord, il faut que tu payes au moins 500 francs. Il faut imaginer, il y a combien de personnes, il y a combien d'élèves qui prennent leur diplôme par an.
C'est, au moins, c'est, ça fait beaucoup d'argent, oui.
Voilà, donc il faut imaginer au moins c'est au moins 500 étudiants ou bien 5000 étudiants, donc par rapport ou bien 1 million d'étudiants qui récupéraient leur diplôme, 500 multiplié par 1 million, je pense que vraiment...
Ça fait beaucoup. Mariam, avant vous, l'auditrice malienne expliquait que ça arrange finalement beaucoup, puisqu'il y a eu une proposition avec des boîtes pour pouvoir vérifier... toutes les personnes qui pouvaient frauder au niveau des policiers. Est-ce que vous, finalement, vous avez l'impression que c'est aussi des mentalités qui doivent évoluer, Djara Kanyoumé?
Oui, effectivement. C'est que Mariam aussi, elle a bien dit, mais il faut imaginer, c'est l'homme aussi qui place les boîtes de surveillance. Et donc, je pense que vraiment, lutter contre la corruption, vraiment, c'est pas facile. C'est l'État même qui prend leur disposition pour interdire rapidement, sinon c'est pas facile. Même si tu as placé les caméras cachées, je pense que c'est le même homme qui place les caméras cachées, mais si il a débloqué les machines, donc je pense que vraiment c'est très difficile pour identifier au moins c'est le fraude, à mon avis.
Merci beaucoup, Jarak Anioumé. Avant que nous puissions prendre un autre auditeur, je vais partager avec vous l'exemple du Nigeria qui essaie de s'associer avec, à titre d'accord avec d'autres pays pour récupérer de l'argent. Ainsi, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis devraient aider l'État nigérian à rapatrier des fonds sous certaines conditions spécifiées dans un accord conclu. Il s'agit de 500 milliards de dollars selon l'agence de presse Bloomberg. Et cet argent correspond à de l'argent récupéré avec l'ancien président qui en aurait détourné beaucoup. Il s'agit du président Sani Abacha. Et ce sont des fonds qui ont été récupérés en Europe et qui vont être restitués. Alors que pensez-vous des campagnes de restitution d'argent qui ont été pris, volés à des populations? Notre prochain auditeur peut nous répondre à cette question. Il s'agit de Mamadou Samba Sow qui est donc en Guinée. Bonsoir.
Bonsoir à vous, la BOA et à l'ensemble de vos auditeurs.
Alors vous, quel est votre avis sur le sujet? Est-ce qu'il faut récupérer l'argent détourné? Est-ce que vous avez d'autres solutions à partager avec nous?
Oui, naturellement. Quand c'est avéré qu'il y a eu détournement et qu'on a des preuves que l'argent détourné dort quelque part, c'est tout à fait normal que les États puissent s'entendre afin de récupérer cette manne financière, parce que le plus souvent, ce sont des dictateurs sur le continent africain qui profitent avec leur famille. Et pendant qu'ils sont aux affaires, c'est difficile de les inquiéter. Mais lorsqu'ils ne sont plus là, c'est tout à fait normal que les pays qui ont cet argent-là à travers leur banque puissent les retourner, parce que c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du public. Maintenant, le phénomène chez nous, ici en Guinée, il se développe du jour au jour parce qu'il y a une impunité totale et le sommet lui-même ne donne pas de bon exemple à travers des marchés gré à gré. Le port autonome de Conakry, une partie a été cédée dans des conditions floues à une société turque Al-Bayrak. Le même port autonome de Conakry fait l'objet de problèmes lorsque la société Jetma International, qui avait une concession, s'est vue dépossédée de cette concession au profit de Bolloré et le puissant homme d'affaires français qui est, vous le savez, très proche des leaders africains, des chefs d'État. Et aujourd'hui, la justice française est en train d'enquêter à ce niveau-là. À Conakry, ça se passe au vu et au su de tout le monde. Un policier arrête un chauffeur de taxi ou un pilote de moto au lieu de réclamer ses dossiers, au lieu, si l'intéressé est en infraction, de l'amener au commissariat pour qu'il puisse suivre la procédure normale, on lui demande tout simplement de payer de l'argent et parfois ça se passe devant vous, passager. Vous êtes dans l'impossibilité d'agir parce que les autorités laissent faire. C'est ce qu'il y a encore.
Alors les autorités laissent faire, selon vous dire. J'ai envie que vous puissiez réagir à notre auditeur que nous avons perdu, Abou de Poutine, qui écrivait que ce n'était pas le cas à l'époque de Sékou Touré. La corruption était écrite dans la Constitution qui disait toute personne reconnue coupable de corruption ou crime financé serait tuée. Les corrupteurs et les corrompus avaient tous peur de voler de l'argent du pauvre contribuable. Mais le monde a évolué avec sa démocratie, son droit de l'homme, ses ONG, et il serait très difficile de lutter contre la corruption aujourd'hui en Afrique car les codes ont changé. Qu'en pensez-vous de ce commentaire?
Je suis tout à fait d'accord avec lui, hein, parce que le président Sékou Touré, il avait tous les avantages, mais vous circulez à Conakry, on ne vous dira pas voici la villa où la villa de Sékou Touré. C'est une preuve avec ces dictateurs aujourd'hui, ces nouveaux dictateurs qui construit des châteaux un peu partout sur le continent et qui en achète ailleurs. Sous ces coutures, il y avait une certaine crainte. On ne pouvait pas se permettre de toucher le bien public. Aujourd'hui, la chose a évolué. Il y a une sorte de banalisation parce que, à mon avis, il y a cette impunité-là et c'est le sommet qui donne le mauvais exemple. Sinon, quand vous venez à Conakry, vous voyez l'Agence nationale de lutte contre la corruption, le bâtiment dans lequel cette agence-là est logée, vous vous rendrez compte qu'elle n'a pas les moyens financiers et techniques pour faire son travail. On ne peut pas inquiéter un directeur à plus forte raison, un ministre de la République. C'est cette situation qui est là, qui fait que ceux qui sont au pouvoir se permettent de dilapider les biens avec leur famille. Et puis, voilà, si c'est un citoyen lambda qui se rend coupable d'une corruption, il est aussitôt récupéré et gardé en tôle.
Merci beaucoup d'avoir...
Il y a une politique de deux poids, deux mesures.
Merci beaucoup. Merci. Une politique de deux poids, deux mesures, c'est ce qu'on retient, Mamadou Sambasso. Merci. Et aussi une impunité qu'il faut arrêter. Qu'en pense notre prochain auditeur, Aruna Baldé, qui est au Sénégal. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors l'impunité que citait notre précédent auditeur, c'est pas forcément ce qu'on a au Sénégal. On a l'exemple du maire de Dakar, monsieur Khalifa Sall. Est-ce que vous êtes pour la sanction? Quelles sont selon vous les mesures adéquates pour pouvoir lutter contre la corruption?
Exactement, moi je suis pour sanctionner vraiment jusqu'au plus sommet de l'État, parce qu'il faut qu'ils montrent un bon exemple, c'est-à-dire les dirigeants, ils n'ont qu'à montrer un bon exemple à l'endroit de leur peuple, c'est-à-dire respectant les investissements octroyés par les bailleurs de fonds. Il faudra aussi faire une justice de droit de musique. Il faut que tout le monde soit sanctionné.
La ligne est un peu brouillon. On va vous reprendre dans quelques instants. On va donner la parole à une auditrice. Elle s'appelle Douce. Elle est à Kinshasa. Bonsoir, Douce.
Bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de la VOA.
Alors, selon vous, comment faire pour lutter contre la corruption?
La corruption, telle que les précédents intervenants l'ont dit, c'est un fléau qui prend beaucoup d'ampleur, qui est dans tous les secteurs de la vie, dans l'administration, dans la politique, même le trafic d'influence. Il y a beaucoup de causes de cette corruption, et à mon avis, pour pouvoir y mettre fin, pour pouvoir y lutter, il faut attaquer les causes. Il ne faut pas seulement voir le policier sur la route qui reçoit quelques francs et qui laisse passer une personne qui vient de faire l'infraction. Mais il faut savoir comment nous en sommes arrivés là, comment nous sommes arrivés à des types de corruption indirectes mais institutionnalisées, où on trouve normal des pratiques ou de comportements qui ne les sont pas au départ. Et donc pour moi, il faut qu'il y ait d'abord une profonde réflexion au niveau de la communauté, au niveau des individus, sur les conséquences de cette corruption et aussi les causes même de cette corruption. S'il y a la pauvreté qu'on décrit en Afrique, s'il y a la malnutrition, s'il y a le chômage, s'il y a autant de maux qui sont collatéraux à la corruption, c'est qu'il faut peut-être les attaquer.
Est-ce que vous avez l'impression que les populations ont envie de faire cette réflexion, ou est-ce qu'elles se contentent de ce qui est actuellement?
Je pense que c'est partagé. Il y a quand même une frange de la population qui est vraiment révoltée par cette pratique, surtout au niveau de la jeunesse, où il y a beaucoup de jeunes qui finissent les études. Et l'université, mais pour trouver du travail, c'est vraiment compliqué. Il faut passer par des voies indirectes de corruption, prendre même de contrats avec la personne qui a participé ou bien qui a contribué à ce qu'il trouve du travail. Tu t'es dit, par exemple, que tout le mois, tu dois donner 1% ou 10% de ton salaire. Et donc, c'est des formes de corruption qui font que la morale, les mœurs, les bonnes valeurs puissent être dégradées. Et je trouve que de plus en plus, il y a des gens qui se révoltent. Ou pour entrer dans la politique, c'est une seule classe. Il y a des générations qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est toujours les mêmes noms de politiciens qu'ils entendent. Donc, il n'y a pas de nouvelles figures, simplement parce que le système est tellement verrouillé que ça devient compliqué. Et tout ces révoltes, toutes ces personnes font ainsi que la réflexion commence, et avec les institutions qui publient chaque année le niveau de corruption par pays, je pense quand même qu'il y a des personnes qui veulent faire quelque chose. Mais d'un autre côté, il y a évidemment ceux-là qui ne sont pas, qui se sentent
sont pas
favorisés par cette situation.
Merci.
Et qui continuent toujours à
à alourdir ou à pérenniser ces pratiques.
Merci beaucoup, Douze, d'avoir partagé avec nous votre point de vue. On va essayer rapidement de reprendre Haruna Baldé. Nous ne vous entendions pas très bien. On vous laisse finir votre réflexion. Donc, vous êtes pour l'impunité zéro. C'était bien cela que vous nous expliquiez.
Voilà, exactement. Je disais que je suis pour l'impunité zéro. Il faut qu'on sanctionne les responsables jusqu'au plus sommet de l'État. C'est-à-dire qu'ils doivent montrer un bon exemple à l'endroit de leur peuple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait cette mentalité-là. Je suis là pour 10 ans, je dois m'enrichir vite et partir. C'est ça qu'on doit changer. Et vraiment, je félicite vraiment les autorités actuelles du Sénégal qui ont mis en place des institutions qui luttent efficacement contre vraiment ce fléau qui gangrène l'économie du pays, en quelque sorte.
Merci beaucoup, Haruna Baldé. On va partir cette fois-ci du côté de Ouida avec Méfis Kiti. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel est votre avis concernant le sujet du jour?
Bon, moi, je pense qu'en matière de corruption, il faut des facilitations pour pouvoir permettre à ce que les populations aient des causes à suivre les conséquences. Mais je pense que nos autorités aujourd'hui, il faudrait saisir sur le terrain. C'est-à-dire, quand on constate que les gens ont pillé des ressources, ont bradé des terres, il faudrait que la justice s'en occupe. Il faut véritablement savoir ceux qui ont eu cette manie-là d'avoir posé ces actes-là et qu'on les punisse. Si on ne punit pas les gens et si on décide de les laisser, je pense que la corruption va perdurer. Ici, en Afrique, on a tendance à laisser le côté de l'éducation. L'éducation est la chose la plus importante en matière de rembâtir pour réduire ces différents aspects du pays. Parce que quand vous n'éduquez pas les gens sur le terrain, quand on ne leur dit pas, si vous faites ci, vous serez frappé par de telles infractions, les gens ne savent pas. Et ils posent ces actes-là. Vous voyez, quand vous rentrez dans l'administration, par exemple, on demande à ce que vous payez des sous pour pouvoir déposer vos dossiers afin de trouver du travail. Or, normalement, l'État avait dit, vous venez pour déposer vos dossiers, vous ne déposez rien. Mais on constate que c'est ce qui se passe en Afrique.
Également, Merci beaucoup. Quel est un autre, on va prendre un autre avis, toujours au Bénin, celui de Vincent Seonou. Bonsoir.
Oui, bonsoir, VOA Africa. Bonsoir, madame.
Alors vous, quel est votre avis concernant le sujet du jour? Comment lutter contre la corruption?
Bon, effectivement, pour lutter contre la corruption, il faut vulgariser les lois, c'est-à-dire sensibiliser la population et détailler les plans, c'est-à-dire les lois qu'on a votées à l'Assemblée ou bien dans les institutions ou bien les décrets. Parce que sans sensibilisation, la population ne peut pas craindre à faire quelque chose. Et après la sensibilisation, il faut appliquer. Comme si nous sommes dans un régime dictatorial, c'est-à-dire appliquer la loi. Quoi. Là, la population aura de la peur au ventre. Je félicite d'Allemagne, mon président Talon, qui a finalement compris le jeu et il a commencé à appliquer les lois. Donc, actuellement, tout le monde sait que si aujourd'hui, au Bénin ici et aussi en Afrique, tu as fait quelque chose, tu as volé l'État ou bien tu as volé une société, tu seras sanctionné par les décrets ou bien un arrêté sur une loi. Donc je félicite également aussi l'Afrique Sud aussi qui a fait une exception. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Jacob Zuma et il a dû restituer une partie des fonds qu'il a de payer en tout cas.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre avis, Vincent. Un dernier auditeur, Alphonse Boakye à Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir, madame. Moi, je pense qu'il faut à la fois sensibiliser, moraliser les gens et puis en même temps donner de bonnes conditions existentielles aux populations. C'est-à-dire donner de bons salaires, des emplois. En même temps, légiférer, élaborer des lois qui soient très fortes contre la corruption. Parce que si on punissait les gens alors que leurs conditions existentielles ne sont pas bonnes, on les arrêtait, on les mettait dans les cachots. Je pense que dans les prisons, je pense que ça ne va rien arranger, d'autant plus qu'ils sont pas dans des conditions précaires.
Merci.
Je suis contre la tuerie. Il ne faut pas tuer les gens parce qu'ils ont volé. Il faut punir. Allô?
Oui, il faut punir. Ce sera votre dernier mot car l'émission touche à sa fin. Légiférer, avoir des meilleurs salaires pour que les gens fasse moins de corruption. C'est ce qu'on retiendra de votre intervention. Merci à vous d'avoir participé. Merci également pour votre écoute. Et puis merci à Joselle Morissin, Thomas Blondet et Firmin Max Koyaweda qui étaient en régie. Dans quelques instants, une nouvelle édition Le Monde aujourd'hui avec Morgane Guiriec et Abdourahmane Dia. Excellente suite des programmes à l'écoute de VOA Afrique.